Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h30 à Paris. Une heure de plus à Maputo.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Prestation de serment du président mozambicain Daniel Chapo. Cérémonie d'investiture dans un climat de tension inédit. L'opposant Venancio Mondlane avait appelé à 3 jours de grève nationale. Le décompte macabre au-dessus de la mine d'or désaffectée de Stilfontein en Afrique du Sud. 78 cadavres remontés depuis lundi. Les autorités annoncent la fin de l'opération de sauvetage. Et puis en Côte d'Ivoire, peine de 2 ans de prison confirmée en appel pour 2 proches de l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Ils sont accusés de maintien illégal d'un parti politique et atteinte à l'ordre public. Oui, au Mozambique, Daniel Chapo est donc officiellement le 5e président de la République. Il a été investi aujourd'hui et prolonge ainsi le règne sans partage du Frelimo, le parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Son élection est toujours très contestée. La cérémonie d'investiture s'est d'ailleurs déroulée dans un climat de tension inédit puisque l'opposant Venancio Mondlane avait appelé à 3 jours de grève nationale. Le récit de Lisa Fabian.
En costume 3 pièces, Gabriel Mukumani est venu à pied jusqu'à la place de l'Indépendance. Aucun barrage de police ne lui aurait fait manquer la cérémonie. C'est un fervent partisan de Daniel Chapo.
Si la majorité des Mozambicains l'ont choisi, c'est que Daniel Chapo a toutes les capacités nécessaires. De plus, les cadres du parti Frelimo ont déjà démontré qu'ils peuvent contribuer au développement de ce pays.
Après avoir prêté serment, Daniel Chapo demande une minute de silence pour les victimes du cyclone Chido et surtout pour ceux qui ont trouvé la mort pendant les manifestations des derniers mois.
Ce silence nous rappelle le poids de notre responsabilité, mais aussi la grande force de notre nation. Unis, nous sommes capables de surmonter les obstacles et de transformer notre douleur en prospérité.
À quelques centaines de mètres de là, des groupes de manifestants se forment. Très vite, la police tire. Réfugié dans une rue adjacente, Basil Oupach ne décolère pas.
C'est une aberration. On a 2 présidents, un pour le peuple et un pour le Frelimo. Mais on ne s'arrêtera pas. Ils ne nous gouverneront pas. Pas le Frelimo. Pour eux, le peuple, ce sont des mendiants. Je n'ai pas peur. Qu'ont-ils fait de moi?
Selon la plateforme de la société civile Décide, 7 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre à Maputo et Nampula au moment où se déroulait cette cérémonie d'investiture.
Un récit signé Lisa Fabian. J'ajoute que l'opposant Venancio Mondlane vient de s'exprimer ce soir dans une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux. Il promet d'annoncer samedi plusieurs mesures gouvernementales à engager durant les 100 premiers jours de son mandat. Venancio Mondlane continue effectivement de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle. Jeudi dernier, à son retour d'exil, il avait prêté serment dans la rue devant la foule de ses partisans. Direction Stilfontein en Afrique du Sud où 78 corps sans vie ont été remontés d'une mine d'or abandonnée depuis le début d'une opération de sauvetage lundi. Des cadavres qui s'ajoutent à ceux déjà extraits par des volontaires ces dernières semaines. Les pouvoirs publics avaient bouclé l'accès à la mine et restreint l'approvisionnement en nourriture depuis des mois, attendant que ces orpailleurs illégaux ressortent pour les arrêter. Claire Bargelès, les autorités ont annoncé être parvenues à la fin de cette opération de sauvetage et avoir fait remonter toutes les personnes possibles.
La police, qui encercle les sorties de la mine abandonnée depuis plus de 4 mois, affirme qu'au moins 1500 mineurs illégaux sont déjà remontés et ont été arrêtés. Mais il serait encore plusieurs centaines à se trouver bloqués à plus de 2 km sous terre et à survivre dans de très mauvaises conditions. Des grues et du matériel ont été acheminés tout le week-end, malgré de fortes pluies, et une cage a été assemblée. Elle peut désormais descendre dans la galerie et remonter 10 personnes à chaque trajet. De premiers essais ont déjà eu lieu ce lundi, permettant de faire sortir plusieurs survivants, ainsi que les corps d'au moins 9 mineurs décédés, selon un représentant de la communauté locale. La société privée chargée de ce sauvetage par les pouvoirs publics estime qu'il lui faudra plus ou moins 2 semaines afin de boucler l'opération. L'un des syndicats de travailleurs présents sur place dénonce un massacre, estimant qu'une 100 personnes auraient perdu la vie sous terre. Les efforts des communautés locales jusqu'à présent avaient déjà permis d'extraire plusieurs cadavres. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Au Gabon, le président de la transition. Brice Clotaire-Oligui-Nguema a procédé ce mercredi à un remaniement de son gouvernement. Le Premier ministre Raymond Dong Sima et les principaux poids lourds de l'équipe sortante conservent leur portefeuille. Le nouveau gouvernement compte 35 membres contre 31 dans l'ancienne équipe. Il y a 10 nouveaux ministres, dont Marc Doumba, nommé à l'économie, ou encore Séraphin Davin-Acouré, Premier ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement. 6 ministres quittent l'équipe gouvernementale. Parmi eux, celui des transports, Loïc Ndinga Mounduma, et celui des sports, Jacques Hogan. Le principal défi qui attend le nouveau gouvernement, c'est l'organisation des élections qui mettront fin à la transition en août prochain. Les Nations Unies ont averti ce mercredi que les informations faisant état d'attaques de représailles contre des civils dans le centre de l'État d'Al-Jazeera au Soudan soulevaient, je cite, « de graves inquiétudes quant aux violations flagrantes du droit international ». L'armée soudanaise, en guerre avec des paramilitaires rivaux depuis avril 2023, a réussi à avancer cette semaine sur Al-Jazeera et repris Ouad Madani, la capitale de l'État, aux forces de soutien rapide. En Côte d'Ivoire, la Cour d'appel a confirmé ce mercredi les charges contre deux responsables de Génération et Peuple Solidaire, un mouvement fondé par Guillaume Soro, l'ex-premier ministre. Mamadou Traoré et Kando Soumaoro, tous les deux condamnés à 2 ans de prison ferme pour 2 dossiers distincts. Les explications de l'Intaliagne.
Le délibéré a été succinct. La cour d'appel a simplement confirmé les 2 condamnations prononcées en première instance. Mamadou Traoré avait été arrêté le 9 août 2024 pour une publication sur Facebook dans laquelle il affirmait que du matériel employé lors du défilé militaire pendant la fête nationale avait été, je cite, « loué à la force européenne Takuba, Chesse et du Mali ». Ce responsable avait été condamné pour diffusion de fausses informations et troubles à l'ordre public. Kando Soumaoro avait été, lui, condamné à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. La justice lui reproche d'avoir participé à une réunion de l'opposition en août, alors que son mouvement GPS a été dissous par la justice, ce que contestent encore ses avocats. Maître Calix Esmel.
Dans l'une et l'autre affaire, aucune preuve n'a été apportée par le parquet. L'accusation a évoqué le fait que GPS serait un parti politique. Nous défendons le fait que GPS est une association et que c'est par une décision administrative qu'on dissout une association.
Dans l'immédiat, les avocats comptent se pourvoir en cassation pour contester cet arrêt rendu par la cour d'appel. Bintadiane Abidjan, RFI.
Et puis au Togo, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a rendu public son rapport pour l'année 2022 et formule des recommandations. Les précisions de Magali Lagrange.
19 milliards de francs CFA, c'est le montant que les entreprises extractives ont payé en 2022, soit environ 30 millions d'euros, 80% de cette somme versée au compte du Trésor, un peu plus de 6% aux communes. Cela représente 1,5% des revenus budgétaires du Togo. Trop peu, un manque à gagner pour l'État, selon certains acteurs de la société civile. Ils s'interrogent sur la pertinence de certains avantages qui peuvent être accordés dans le secteur. Godson Keto-Magnon, journaliste à Liberté et membre du comité de pilotage de l'ITIE.
Normalement, les ressources du pays devraient profiter au pays. Mais malheureusement, on constate qu'on fait du surplace pendant que ces entreprises se remplissent les poches. Elles rechignent à s'acquitter de leurs devoirs envers l'État. Encore moins envers les communautés au sein desquelles se trouvent ces ressources minières.
3 entreprises sont identifiées dans le rapport comme étant celles qui ont le plus contribué aux revenus budgétaires, à hauteur de plus de 90%, la SNPT dans le phosphate, ainsi que Scan Togo et Boissem dans l'exploitation du calcaire. Pour Pidenam Sama, président de Veille Citoyenne Togo, la gestion de certaines des entreprises du secteur extractif n'est pas assez transparente.
Il y a une mauvaise gestion. Même quand vous prenez la SNPT par exemple, dans le rapport, vous verrez que ça a été mentionné. Il y a des dividendes non versés, des états financiers non certifiés.
Il demande aussi une réforme du code minier qui date de 1996.
Magali Lagrange, et puis en football, on connaît la composition des 4 groupes du prochain CHAN qui aura lieu en août au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure à Nairobi. Le groupe A verra s'affronter le Kenya, le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Le groupe B, celui de la Tanzanie, sera particulièrement francophone avec, outre les Taifa Stars, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine, novice à ce niveau. niveau. Le groupe C réunit l'Ouganda, la Guinée, le Niger, ainsi que deux équipes issues d'un prochain tournoi de qualification. Reste le groupe D, celui du tenant du titre sénégalais, qui aura comme adversaire le Congo, le Soudan et le Nigeria. On rappelle que le CHAN réunit les footballeurs évoluant sur le continent. Il est 20h40 ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.